Salut à tous et surtout salut à ceux pour qui la journée d'hier n'a été qu'une longue et pénible agonie entrecoupée de moments de vide, de larmes et de Véronique Rabiot. Oui, la France est éliminée, mais la vie continue, l'Euro aussi, et qui sait, peut-être que c'est le football qui sortira grandi de cette terrible désillusion. Face à cette joie de vivre débordante, il fallait forcément remonter le niveau, et c'est Valentin Aznar et Jules Quitté qui se sont sacrifiés pour le bien de vos oreilles et votre santé mentale. Jules, c'est toujours difficile à vivre d'être éjecté tôt d'une compétition dans laquelle on est attendu, surtout pour toi et moi avec nos clubs où on n'espère pas grand-chose à chaque début de compète. Et je voulais savoir comment tu te sentais, mon vieux.
Bah écoute, après l'état de sidération qui a suivi le match, je sais pas trop quoi en penser. En fait, c'est dur, quoi. Genre c'est dur, ça fait chier. Il y a rien à dire, qu'est-ce que tu veux dire? En fait, ça me saoule, les analyses de machin. Je sais pas trop quoi en dire. C'est encore un peu brouillon pour l'instant. J'avance dans la vie et j'ai été étonné aujourd'hui de voir des matchs et de prendre du plaisir. Tu vois, je pensais que j'allais plus regarder de foot. Et en fait, tu te rends compte, quand tu regardes un match de foot où tu ne soutiens personne, comme c'est agréable.
Ouais, c'est vrai que de juste suivre les événements et pas les subir, c'est pas dégueulasse. Val, toi, les déceptions dans les grosses compètes, t'as pas mal connu ça en Ligue des Champions avec Lyon. Est-ce que ça te permet de prendre un peu de recul sur ce qui s'est passé?
Alors, j'ai connu ça avec Lyon, mais je n'ai pas connu ça avec la France, puisque je vous rappelle que depuis samedi dernier, je suis danois, officiellement. Donc là, la France, j'ai vécu ce match comme un beau match de football, bien sûr.
Bon bah tant mieux, écoute, si t'es au moins t'es là pour remonter un peu le niveau de cette dépression qui nous prend tous. On a quand même un programme chargé avec le débrief des matchs de la veille et l'Allemagne qui perd contre l'Angleterre terriblement. Je pensais un peu me réconcilier avec le foot sur ce match, et l'Ukraine qui continue d'assumer son statut d'outsider. Les chroniques, avec évidemment cette dépression assumée de Jules qui vit dans le noir depuis 3 jours, et Valentin qui tenait à mettre en valeur les qualités de cet Euro et surtout ces 8e de finale qui, quoi qu'on en dise, ont été au moins en termes d'émotion assez monstrueux. Et évidemment, on terminera par les pronos pour entrer doucement dans les quarts de finale. On commence avec le choc de ces 8e de finale, le Angleterre-Allemagne, qui était le match le plus attendu après le Portugal-Belgique. Match historique, d'abord dominé par les Allemands sur les 15 premières minutes, et après on a senti assez bizarrement, je dois dire, une Angleterre qui a repris le contrôle de ce match, et finalement des Allemands assez stressés qui, au lieu de poser le jeu comme on l'attendait, ont balancé des longs ballons et ont pas su assumer leur jeu, justement. Jules, qu'est-ce que t'as pensé de ce match?
Plusieurs choses. Je pense que, comme beaucoup de huitièmes, ça s'est joué beaucoup à l'impact et à l'envie, je trouve, ce match. Je trouve que les Anglais ont un peu paniqué au début et ont repris vite le contrôle du match avec la base du foot, en gagnant des duels, en allant à l'envie, en faisant déjouer l'Allemagne. C'était quand même un match d'un bon niveau. Moi, ce qui marque beaucoup, on le savait avant l'Euro, mais du coup, ça se confirme encore plus dans le tournoi, c'est quand même la richesse de l'effectif anglais. Quand on compare le banc de l'effectif anglais avec tous les autres bancs, c'est assez hallucinant. De voir les solutions qu'a Southgate à portée de main. Donc c'était quand même un match assez plaisant. Après l'Allemagne a quand même pas été flamboyante, hein, sur ce match-là. J'ai trouvé ça quand même très très faible. Je les attendais un peu plus haut.
Ouais, assez décevant cette Allemagne. Valentin, une Angleterre solide avec un banc, mais toujours avec cette lacune dans le jeu. Et qui finalement s'est estompé par presque une domination physique. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi.
Ouais, il y a un peu de ça. C'était vraiment un vrai match de sélection qu'on a vu cet après-midi. Et c'est pas du tout péjoratif ce que je dis. C'est quand même assez positif vu le niveau qu'il y avait entre ces deux équipes-là. Après, il y a quand même deux faits de jeu qui, je pense, changent le cours de ce match. Il y a cette action aux alentours de la 15e minute où Goretzka est lancé en profondeur. Et le défenseur anglais revient sur lui. Moi, je trouve la décision de carton jaune assez légère, et je pense que j'aurais mis un carton rouge, surtout qu'il est pas dans la surface, donc ça fait pas double peine. Et je pense
Après, ils sont deux à arriver sur lui, c'est peut-être pour ça que l'arbitre a...
Mais bon, au final, il y a un tacle par derrière, quasiment en dernier défenseur, que je trouve quand même très très limite. Alors pas forcément dangereux, mais limite dans la dans le fair play, en fait, dans l'aspect fair play du jeu. Et donc je pense que cette décision à la 15e minute change un petit peu le cours du match, parce que si les Anglais prennent ce carton rouge, bah évidemment, c'est pas le même match. Et il y a un deuxième moment hyper important, c'est à 1-0. Le moment où Kai Havertz envoie Thomas Müller en profondeur, et Thomas Müller rate ce penalty pour mon plus grand bonheur, parce que je déteste Thomas Müller, mais c'est pas du tout un penalty d'ailleurs, mais il rate cette énorme occasion face à Pickford. Et je pense aussi que si Müller marque ce but à ce moment-là, le momentum change de côté, et les Allemands peuvent espérer bien mieux que cette fin de match où ensuite Kane fait la différence.
Et moi, le seul truc sur lequel je voulais vous relancer, c'est que j'espérais à travers ce match revoir le football gagné sur des blocs ou du moins des conceptions assez basiques du foot. Et finalement, j'ai été assez déçu de cette équipe d'Allemagne qui s'est précipitée, a pas respecté son jeu. Et je sais pas si c'est Joachim Löw qu'il faut critiquer ou alors les joueurs, mais il y a trop de potentiel dans cette équipe et trop d'idées pour que ça finisse comme ça, bêtement, contre l'Angleterre, avec un match bâclé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais...
Je crois que cette équipe est vraiment en fin de cycle, et qu'il est temps que Hansi Flick prenne les rênes de cette équipe. Et je pense que cette équipe a un potentiel assez exceptionnel quand on regarde les joueurs. Robin Gosens, c'est un des meilleurs latéraux gauche aujourd'hui dans le monde. Au milieu, c'était Kroos et Goretzka. À droite, c'était Kimmich. Rien que cette ligne de 4 au milieu de terrain, ça fait la différence à tous les niveaux, quoi. Donc, je pense que c'est vraiment une fin de cycle. Il y avait peut-être un aspect physique qui rentrait en jeu aussi, etc. Mais j'ai du mal à croire que Joachim Löw tenait encore véritablement son groupe sur cette compétition.
Jules, Löw dépassé, et peut-être dépassé depuis plus longtemps que cet Euro, en fait, parce que ça fait quand même pas mal de compétitions où les Allemands se plantent avec une génération qui est assez monstrueuse.
Oui, alors Löw, oui, Löw dépassé. Aussi, je trouve, moi, personnellement, qu'il y a un... Est-ce que... Enfin, on pourrait s'interroger sur... le petit souci générationnel qu'il y a peut-être aussi en Allemagne sur la ligne d'arrière. On sait que les lignes d'arrière font énormément dans les compétitions internationales de nations. Et moi, je suis désolé, mais avec Mathias Ginter, avec un Hummels en pré-retraite et avec un Rüdiger, c'est compliqué de lancer des circuits courts de passe, donc sur des 100 cross. Donc, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui font que moi, j'en attendais, contrairement à toi, pas tant que ça de ce match-là. Je m'attendais à peu près à ce que j'ai vu. Et puis c'est pas si étonnant que ça. Moi honnêtement, j'ai trouvé l'Angleterre bien plus solide que ce que je pensais. C'est plus ça qui m'a étonné plutôt que la faiblesse de l'Allemagne que j'attendais à ce niveau.
Ouais, moi aussi j'ai été surpris par cette équipe d'Angleterre, mais sûrement, enfin, et c'est peut-être là où je diverge de vos points de vue, sûrement parce que j'ai été déçu de cette Allemagne. On enchaîne sur ce Suède-Ukraine qui était finalement le match le moins attendu de ces huitièmes de finale et qui, à l'image de tous ces huitièmes de finale, a eu son lot de suspense et de retournement de situation. Val, on pensait attendre la Suède avec un bloc assez bas et l'Ukraine qui bute dessus en bloc et qui n'arrive jamais à trouver la faille. Finalement, on a eu un match assez animé, non ?
Ouais, très très ouvert, ouais, très ouvert, avec des joueurs d'une qualité technique assez intéressante quand même sur tout le match. Je pense d'un côté à Emil Forsberg, de l'autre à Yarmolenko, à Zinchenko, qui sont des joueurs quand même assez confirmés au niveau européen. Et ça nous a donné un match qui était hyper ouvert, notamment en deuxième mi-temps. Il y a un moment, c'est parti un petit peu dans tous les sens. On a enchaîné trois poteaux, une barre transversale. Bref, c'est vraiment parti dans tous les sens, avec des buts exceptionnels, un dénouement magnifique. Et voilà, bon, c'était encore un super match de foot. Moi, je reviendrai tout à l'heure dans ma chronique sur cette équipe-là, mais vraiment un vrai plaisir de voir cette équipe d'Ukraine jouer. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner contre nos amis anglais.
Jules, en allumant la lumière un peu sur tes derniers jours de tristesse qu'on partage tous, est-ce que tu as réussi à kiffer un peu ce match ?
Ouais, je rejoins ce qu'a dit Val. Je suis complètement d'accord. Alors moi, contrairement à lui, j'ai quand même pris un peu plus de plaisir à voir la Suède jouer. Ça me laisse une petite frustration dans le sens où finalement... Ils étaient peut-être capables de plus prendre la balle et de faire des choses différentes. Après, je pense clairement que le match tourne sur cet affreux carton rouge où au final, sinon, je pense que c'est pas le même dénouement. Je pense que la Suède est en train de faire plier l'Ukraine. Mais bon, dénouement incroyable en fin de match. Et puis, rien que de voir Shevchenko exulter comme ça, ça valait le coup.
Ouais, vraiment horrible, par contre, ce carton rouge. Hein.
Il est horrible.
Ouais, d'ailleurs, je pense que le joueur ukrainien, on le reverra pas de sitôt sur un terrain de foot.
Oui, bon, en même temps, c'est pas comme si t'allais le regarder en championnat l'an prochain.
Tous les jours, je regarde tous les matchs de championnat ukrainien, mon pote.
Merci les gars, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec les chroniques. Jules, on se regarde dans le blanc des yeux. J'ai beaucoup critiqué le jeu de Deschamps et ça m'a pas empêché de me réveiller ce matin avec plus qu'un goût amer dans la bouche et même un sentiment de rien, en fait, de la vie qui rime plus à rien, de cet euro qui rime plus à rien, de ce podcast qui rime plus à rien. Pourquoi on fait tout ça, en fait? Pourquoi on est là tous les deux?
Bah, j'ai également envie de me tirer une balle, mais bon, voilà, bon, vous en avez un petit peu l'habitude maintenant. J'ai tendance, après les matchs, à balancer un peu les mots comme ça, dans le désordre sur le papier. Donc là, vous imaginez bien qu'encore plus. Donc, j'ai tenté de vous décrire ce qui m'a traversé après cette petite élimination. Donc les yeux rougis, les cernes marquées, les âmes vidées, l'été est fini. Il est fini avant même d'avoir commencé. On est là comme des cons sur le bord de la route et on voit le bus s'éloigner. Je peux pas m'empêcher d'imaginer la tête de Paul Pogba, le front collé à la vitre du bus, à regarder dans le vague, avec du Avril Lavigne dans les oreilles certainement. C'est frustrant car rien n'avait vraiment commencé. On était qu'au début des émotions. C'était une pseudo-histoire d'amour, un simple flirt d'été. Et c'est finalement encore plus dévastateur qu'une longue et belle histoire qui se délite doucement. On était là, on se tournait autour, on commençait doucement le jeu de la séduction. C'est le moment où les fantasmes sont les plus forts, les plus fous, les plus absurdes. On s'endort le soir sur l'oreiller en rêvant de mille choses, et quand ça s'arrête d'un coup, sans raison valable, on est en état de choc. On aurait aimé pouvoir faire plus, pouvoir faire mieux, mais c'est fini. C'est fini. Et il reste que les souvenirs, les images qui passent et repassent. On réécrit l'histoire, on se demande ce qu'on aurait pu faire, ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on n'aurait pas dû faire. On est là et l'amour convoité s'éloigne au bras d'un autre. On est impuissant, on est con, on est plein de regrets. Mais finalement, c'est fait aussi de ça l'amour. Sinon, autant rester tout seul chez soi, dans son coin, à se palucher sur le tournoi international de Jokari, à voter Zemmour et aller au flunch le dimanche. Parce qu'on a vibré quand même. C'est notre Séville 82 low cost à nous, et ça te donnera une bonne raison de parler un peu plus avec ton père, te rendre un peu plus compte qu'il a quand même souvent raison. T'as commencé tranquillement, 2-3 bières avant le boulot, Espagne-Croatie, 3-1 à la 80e, puis prolongation. Oh les cons, oh, c'est pas à nous que ça arriverait ça. Oh les cons, hein, c'est pas à nous. Hein. Et puis tu t'es même réjoui que ça fasse prolonger, que ça laissait moins de temps aux doutes, moins de temps à la pression de monter, moins de temps aux interrogations de devenir palpable. T'as répété toute la journée, et attention le match piège, hein. Faut faire gaffe quand même, on a toujours du mal contre les blocs bas. Mais en vrai, t'en croyais pas un mot de tes conneries. Au fond de toi, tu savais que ça passerait. T'as même mis 4-0 pour les bleus à MPP. Tes phrases, c'est juste pour niquer un signe indien, t'as inventé une croyance datée. Alors, quand t'as aperçu la petite touche bleue sur la coiffure du polo, t'as senti un frisson te parcourir l'échine. Ensuite, c'était le regard de Karim, plus déterminé que toi devant ton frigo à 2h du mat en rentrant de soirée. L'amour, ça rend aveugle. Et sur le moment, t'as oublié ce 3-5-2 qui rime à rien. T'as oublié la tronche de chien battu de l'anglais et la présence de Moussa Sissoko sur le banc. Ce premier rendez-vous, ça commençait sous les meilleurs auspices. Mais ça se passe pas comme prévu. Ça se passe jamais comme prévu. C'est pour ça que t'y retournes d'ailleurs, même si parfois t'as envie de vomir de tristesse. Ça se passe pas comme prévu parce que tu bégayes. T'aurais pas dû mettre ces nouvelles pompes qui te font mal aux pieds. Et puis elle te sert cette chemise. Le schéma est bancal. La défense à 5, c'est pas que ça fonctionne pas, c'est que c'est une catastrophe. On dirait l'organisation tactique d'une équipe de minime. L'alignement, il est fait à l'équerre par un borgne. On est mangé dans tous les espaces. En bouche, t'as cette espèce de goût de fer, ce petit goût métallique, celui que tu sais pas bien expliquer, mais qui est là quand ça tourne mal. Et ce qui devait arriver, arriva. 1-0 pour la Suisse. T'es à peine content d'avoir eu raison. Ce qui te meurt de toi, c'est surtout de prendre un but de Haris Seferovic. Même les Suisses, ils l'aiment pas. Mais si avec ça, Pavard laisse des autoroutes de partout au piston adverse, il a sûrement peur de voir débarquer Gossens comme un pélican, et l'anglais, bah l'anglais. Le gars, il prend même pas la peine de sauter. T'es dépité. Quand la mission arrive, t'as déjà fumé 8 clopes et clusé 3 bières, ce qui est quand même cocasse pour un gars qui gueule parce que ça court pas assez sur le terrain. T'es inquiet. T'as plus d'ongles à ronger, alors t'entames les doigts du voisin. Étrangement, autour de toi, l'optimisme est de mise. C'est peut-être toi, en fait, le salaud qui voit tout en noir. Et à un instant, t'y crois. Au retour des vestiaires, la magie opère. La magie de Karim, déjà, qui par deux fois montre qu'on peut être parfois plus élégant avec des crampons qu'avec des pinceaux. Et là, c'est tes yeux de gamin qui brillent. C'est tes premiers amours, tes premiers smacks en primaire. Ta poitrine se réchauffe, tu te rassois, et t'as l'impression que c'est reparti.
que tu t'es inquiété pour rien. Lloris, qui a pas arrêté un péno depuis 6 ans, l'arrête alors que Benzema va lui parler juste avant. Putain, c'est des images pour les bouquins d'histoire, ça. Ça doit rester. Tu te mets à croire au destin comme un niais, mais qu'est-ce que c'est bon d'être niais. Et quand la pioche met un but dont t'aurais été incapable de rêver, alors tout est possible. Alors t'y crois vraiment. Et tu lui en veux même pas pour ces 3 célébrations. Oui, les Français sont arrogants. Allez vous faire foutre. C'est nous qu'on est les meilleurs. Quel scénario. Va te faire cuire le cul, Shakespeare. Tu te relâches même. Tu te permets d'aller pisser à la 80e. Tu te fous un peu de la gueule de la calvitie naissante d'Harbert Memedi. Mais pourquoi ils continuent à courir en face? Ils y croient ou quoi? Et puis un but. Et puis Moussa Sissoko. Et puis 2 buts. Et puis les prolongations. Et toi, tu sais que c'est mort. Comme tu savais après l'arrêt de Lloris qu'on reviendrait, là tu sais que s'il marquait le 3e, c'était terminé. Et ça te fait une belle jambe de le savoir. Alors oui. On est éliminé par les Suisses. Et quand je le dis, j'ai encore une petite boule dans la gorge. C'est jamais agréable de se faire larguer. Mais est-ce que c'est ça l'important dans l'amour? Soyons pas bruts, soyons pas beaufs, soyons sensibles un peu. Ce qu'on aime dans l'amour, c'est la vibration. Celle qui te rappelle que ça existe. Et là, on aura vibré, on aura eu ce qu'on voulait. On sera passé par des émotions folles. C'est pas donné à tout le monde. Tu te rappelles? Les losers, les oubliés, les perdus dont je te parlais? Bah ça y est, on en est déjà. Un peu plus tôt que prévu. Allez au Lakers, toutes les histoires d'amour ne peuvent pas aller au bout. Et puis, comme disait l'autre, le plus excitant, ça reste quand même quand on monte les marches. Alors oui, concrétiser toute cette excitation, c'est toujours mieux. Ce serait mentir que de dire qu'après le match, je suis pas resté en état de choc 30 minutes devant la télé éteinte. Mais c'est ça qui est beau, c'est de trembler, d'y croire, de souffrir, de pleurer, puis recommencer. Pas dans le même ordre, parce qu'il y a que l'amour qui fait ça. À la fin du match, tu prends subitement conscience qu'on gagnera pas l'euro, que t'as pas un rond et que t'es célibataire. Mais je te jure, en vrai, pas grand chose a changé. Simplement, quand on est amoureux, on voit tout avec un filtre rose débile, et ça fait du bien. Alors vivement qu'on retombe amoureux. Et puis ceux que t'as envie de tuer là. Ceux qui dans leur col roulé trop serré te disent « Oh ça va, c'est que du foot ». Bah ils ont pas tort, c'est que du foot. Alors chialons, mais des émotions il y en aura d'autres. Et les salopards en sarouel qui disent « Oh ça va, une de perdue, 10 de retrouvée ». Bah ils ont... Ah non, ça c'est des conneries. Mais en même temps c'est quand même des salopards en sarouel. Alors oui, les semaines à venir vont être dures. Ce serait facile de se trouver moche, de se trouver con, d'éviter son regard dans le miroir. Mais t'inquiète, le temps ça soigne tout. Ça va être plus dur de rêver, de fantasmer. Mais ça vaut le coup d'y croire. Comme le disent les buveurs de thé ou les bouddhistes, c'est dans la défaite qu'on apprend. L'important, c'est de pas tomber, c'est de se relever. Hein, tu la vois, cette phrase avec la tête de Mandela ou un parterre de fleurs sur la photo de couverture Facebook de ta cousine Céline. Alors, c'est raté. Alors oui, c'est triste, oui, c'est frustrant, alors oui, on peut rien y faire, mais il y en aura d'autres. Alors ce soir, sur ton oreiller, plutôt que de penser à ce qu'on aurait dû, ce qu'on aurait pu, ce qu'on n'aurait pas dû, pense à ce qu'on pourra.
Merci Jules, je crois qu'on t'a trouvé un nouveau talent de remueur de couteau dans la plaie. Ça m'empêche pas de garder en tête que c'est un énorme gâchis cette élimination, mais il est pas temps de refaire le débrief de ce match. Val, t'as ressenti la même chose? T'es resté 30 minutes devant ta télé tout seul, bouche bée?
Évidemment, peut-être un petit peu moins que 30 minutes parce qu'il fallait quand même qu'on enregistre un podcast hier et c'était pas évident. Mais Jules, tu parles d'histoire d'amour un peu ratée avec cette équipe de France. Moi, j'aimerais juste éventuellement vous mettre à la place des Suisses hier soir qui ont dû vivre une des plus belles pages de leur histoire, footballistiquement parlant, je veux dire. Et voilà, ça devait être magnifique de leur côté. On l'a vécu, nous, il y a quelques années. Et je leur souhaite de profiter au maximum de ça et éventuellement d'aller plus loin dans cette compétition.
Moi, je leur souhaite d'aller se faire enculer.
Mais gars, je vais te dire exactement la même chose. J'en ai rien à battre des Suisses, mon gars.
Ouais, je suis d'accord, j'en ai rien à foutre.
J'ai juste trop la haine de ce match de merde là avec.
Non, reste en fair play. Non, en vrai, moi, ce qui me chagrine vraiment, parce que j'en avais pas trop parlé, moi, ce qui me chagrine vraiment, c'est t'as des types comme Benzema et Pogba qui étaient partis pour faire un euro stratosphérique, qui mettent des buts de zinzin, qui sont censés rester dans l'histoire et ça va passer au rang d'anecdote parce qu'on est éliminé et ça c'est quand même dommage.
C'est ça qui est terriblement frustrant, c'est que et heureusement que Benzema fait ces deux matchs là contre le Portugal et contre la Suisse, sinon j'imagine même pas ce qu'il aurait pris dans la tête, mais c'est horrible en fait. Ce qui est le plus dur, je trouve, en plus de cette élimination, c'est de voir Benzema sortir deux matchs monstrueux et finalement qui vont dans un sens servir à rien. Moi ça me tue en fait. Ça me tue et je pense que ça, en plus de ta chronique, ça remue encore plus le couteau dans cette plaie béante.
Allez, ne regardons pas derrière.
Merci Jules, on va continuer sur ce ton hyper optimiste et c'est Valentin qui va nous sortir de ce traquenard et je sais pas comment il va faire parce que on est tous les trois à deux doigts de chialer. Mais Valentin, tu voulais revenir sur ces huitièmes de finale qui, objectivement, si on sort de l'émotion, en tout cas du côté français, ont été assez monstrueux. Et je crois qu'il y avait trois personnes que tu souhaitais remercier en particulier.
Alors trois, il y en a même beaucoup plus que ça, Alex, parce que les huitièmes de finale se sont terminés hier soir avec la victoire de l'Ukraine face à la Suède au terme d'un dénouement magnifique. Et je voulais justement clôturer ces huitièmes à ma façon en faisant un petit bilan de ces huitièmes de finale. Dans cet Euro qui a été beaucoup critiqué pour son niveau de jeu, de manière souvent injustifiée, j'ai trouvé qu'on avait eu des huitièmes de très très haut niveau, que ce soit au niveau tactique, au niveau de l'intensité ou au niveau des scénarios. Et le football ressort vainqueur de ces huitièmes de finale. Alors j'ai trouvé que c'était d'ores et déjà le moment de dire merci. Merci à tous ces acteurs qui font de ce sport un sport à part. Merci à la Johan Cruyff Arena, par exemple, d'avoir accueilli du public pour ce Danemark-Pays de Galles. Merci aux Danois pour leur hommage, pour leur fond de jeu magnifique, pour leur public magique, pour Christian Eriksen aussi. Merci aussi de m'avoir offert une nouvelle nationalité et donc une nouvelle équipe à suivre jusqu'à la fin de la compétition. Merci à Jean-Charles Sabatier et à Patrick Guillou de nous avoir commenté ce Danemark-Pays de Galles comme une finale de Coupe du Monde et avec une justesse rare. Merci aux Italiens pour le jeu développé et leur hymne national. Merci aux Autrichiens pour la dramaturgie, à Federico Chiesa pour cet enchaînement sublime, à Pessina pour cette célébration exceptionnelle, à Locatelli pour ses passes laser. Merci aux Tchèques pour leur maîtrise tactique et leur abnégation. Merci à Patrick Schick pour cet euro exceptionnel, à Thomas Oles pour ce match dantesque, à Vaclik pour cet arrêt exceptionnel, à Frenkie de Jong pour l'amour du jeu. Merci à Malène d'avoir été l'une des révélations de cet euro et merci à Memphis d'avoir fait grandir l'Olympique Lyonnais pendant ces 4 années. Désolé, ça n'avait rien à voir, mais il fallait absolument que je lui rende hommage dans ce podcast à un moment ou un autre.
Il peut pas s'empêcher, hein.
Non, je peux pas m'empêcher. Merci aussi aux Belges d'avoir gagné à la française. Il fallait bien que ça arrive pendant ces huitièmes de finale. Merci d'aller au bout de cet euro parce que vous le méritez de remporter ce titre avec cette génération exceptionnelle. Merci à Karine et Thierry d'avoir mis au monde Eden et Torgan. Merci à Eden d'être revenu à ce niveau-là, à ce moment-là, et merci pour ses contrôles orientés. Merci à Torgan d'avoir fait en sorte de battre les Portugais à la française. Il fallait bien que ça arrive aussi un jour à l'Euro. Merci à Kevin De Bruyne pour tout ce qu'il fait pour le football, et merci à Romelu Lukaku de produire autant de kilowattheures que Wout van Aert sur un vélo. Merci aux Portugais de nous avoir offert Renato Sanchez et à Pepe de rassurer Alex sur la retraite qui arrive rapidement. En revanche, pas merci à João Palhinha pour son tag sur Kevin De Bruyne. Mais merci à ce lundi 28 juin d'avoir existé footballistiquement. Merci à la ville de Copenhague d'avoir accueilli cette Espagne-Croatie. À Sergio Busquets de continuer depuis 15 ans à révolutionner le poste de milieu de terrain défensif. À Pedri pour son culot à 18 ans seulement et son toucher de balle aussi soyeux qu'une chronique de Jules. À Alvaro Morata pour son abnégation dans un contexte extrêmement difficile pour lui. Merci et immense merci à Luka Modric pour son immense carrière d'une constance unique pour un joueur à ce poste-là. Pour ses extérieurs du pied et cette immense masterclass en fin de match pour maintenir les Croates en vie. Merci aux Suisses d'avoir toujours cru en l'exploit, de n'avoir jamais dérogé à leurs principes de jeu offensif et très plaisant. Et merci d'avoir proposé une opposition et une équipe qui avait besoin d'une remise en question. Merci à Yann Sommer pour cette belle gueule et ses arrêts foudroyants, à Granit Xhaka pour ce leadership et ses cheveux peroxydés. C'est toujours important d'avoir un petit peu de flow dans une compétition internationale. À Paul Pogba pour cet euro exceptionnel, à Antoine Griezmann pour son intelligence de jeu, à Karim Benzema pour ses contrôles magiques, à Kylian Mbappé pour être un joueur à part malgré tout, et à Samuel Umtiti de vite retrouver son niveau parce qu'il y a une Coupe du Monde à jouer dans 18 mois. Merci
anglais,
à Jack Grealish, à Bukayo Saka, à Raheem Sterling, à Harry Kane en premier lieu qui ont réussi à résister à la pression énorme qu'ils avaient sur les épaules en battant les Allemands. Merci à Joachim Löw d'avoir fait grandir le football de sélection. Et enfin, merci aux jaunes et bleus, peu importe qu'ils soient suédois ou ukrainiens, pour ce match exceptionnel qu'ils nous ont fourni hier soir. Merci à Emil Forsberg pour son toucher de balle et ses frappes de mule, et évidemment à Yarmolenko pour cet extérieur du pied, à Zinchenko pour cette demi-volée d'une pureté rare et cette galette déposée à la 121e, à Dovbik pour ce but au bout de la nuit. Mais aussi, merci aux arbitres d'avoir été globalement très bons pendant ces huitièmes de finale. Alors ça y est, j'arrive au bout de cette chronique. C'est important de savoir dire merci pour l'émotion procurée. Mais c'est aussi important de savoir dire s'il vous plaît pour que tous ces héros du football fassent perdurer cette émotion qu'ils nous ont transmise jusqu'au quart de finale, au moins.
Bah écoute, Val, je crois que moi, j'ai juste à te dire merci pour cette très belle chronique. Merci messieurs, merci Val pour cette chronique et je vous propose qu'on passe tout de suite au prono et qu'on rentre dans ces quarts de finale. On a du coup les affiches de ces quarts de finale. Messieurs, je vous propose un jeu très simple. Je vous donne les matchs, vous me donnez le vainqueur. On commence tout de suite avec, par ordre chronologique, le premier match qui aura lieu le vendredi 2 juillet à 18h à Saint-Pétersbourg, et ce Espagne-Suisse, affiche qui peut paraître déséquilibrée, mais finalement, après ce qu'on a vu, pas du tout. Valentin, Espagne-Suisse.
Moi, j'ai été quand même pas mal convaincu par les Espagnols qui ont maîtrisé pendant 80 minutes les Croates. Donc, je vais partir plutôt sur une victoire de l'Espagne, même si les Suisses sont très intéressants dans leur approche du jeu. Et donc, une petite victoire de l'Espagne de 2-1, ou 3-1, peut-être.
Jules ?
Je rejoins un petit peu Val à voir ce que la Suisse va donner sur l'impact physique, parce que je pense qu'ils risquent d'emmerder un peu les Espagnols à ce niveau-là. Mais je pense que je trouve quand même que l'Espagne monte en puissance. Je vois une victoire étriquée de l'Espagne, pourquoi pas même en prolongation un petit 2-1 ou ouais, un petit 2-1.
Italie-Belgique à 21h, grosse affiche. Jules, qui tu vois?
Bah, excitant. C'est compliqué, on va dire choix du cœur, purement du cœur, je verrais bien la Belgique, parce que comme l'a dit Val, j'aimerais bien que cette génération soit récompensée, et moi je les aime bien, nos amis belges. Après, il y a un autre choix du cœur, qui est le cœur footballistique, c'est que ce serait beau aussi que cette magnifique Italie passe. Je sais vraiment pas quoi en penser, je vais dire un match hyper équilibré, genre deux partout, et ça joue au péno.
Je crois que de toute façon, vu les huitièmes et les scores, qui aurait pu prédire de tels résultats, c'est quand même très dur de trouver les bons pronos. Val, tu vois quoi sur ce Italie-Belgique?
Moi, je vois un remake de la demi-finale de la Belgique de la Coupe du Monde 2018, mais inversé, où les Belges vont la refaire, mais exactement à la française, comme ils l'ont fait sur le huitième de finale contre le Portugal. Et donc, je vais prendre un petit risque et je vais dire 1-0 Belgique.
Mais est-ce que Thomas Vermaelen va pouvoir réitérer la performance des huitièmes? Ça, c'est une inconnue.
C'est une bonne question. Ce serait exceptionnel qu'une équipe arrive à gagner un euro avec un joueur qui joue au Japon.
Ouais, c'est vrai. Et en défense centrale, en plus, qui a un poste tellement important, ouais. ce serait assez sidérant. Ouais. Danemark, République tchèque, on est tous pour le Danemark, mais qu'est-ce que la raison dit et qu'est-ce que le cœur dit? Jules, je te vois faire des gros noms, là.
On n'est pas tous pour le Danemark. On peut avoir de la sympathie pour eux, mais c'est bon, il est sorti de l'hosto, là.
Attends, on a le droit d'être pour le Danemark, pour le foot, et pas pour Eriksen.
Non, en vrai, moi aussi, j'ai beaucoup de sympathie pour cette équipe du Danemark, mais j'en ai pas mal aussi pour cette équipe de la République tchèque, hein, qui, sans faire de bruit, propose pas mal de choses depuis le début. Ouais. Et je pense que c'est malheureux. Je pense que c'est l'équipe sur laquelle il fallait pas tomber pour le Danemark. Parce qu'ils mettent la même débauche d'énergie, ils jouent un peu sur les mêmes cordes, avec des attaquants talentueux devant. Je vois bien une victoire des Tchèques, moi. Un petit 2-0 ou 1-0, une victoire.
Val, contredis-moi ce.
Ouais, moi, je pense que vraiment, le Danemark, on n'a pas encore vu la plénitude de cette équipe. Quoique, enfin, sur le huitième de finale, c'était quand même intéressant, mais. Il y a eu évidemment ce match contre la Finlande et contre la Belgique, il y a eu 45 minutes extrêmement intéressantes, voire peut-être même 60 minutes très très intéressantes. Et je pense que le Danemark est au-dessus, et malgré la bonne sympathie que j'ai pour cette équipe de la République tchèque aussi, je pense que les Danois vont s'imposer, et plutôt facilement 2-0.
En vrai de vrai, j'ai voulu juste faire un prono de hipster sur une équipe supportée par les hipsters. C'était pas évident, c'est un double coup très technique.
Très original, Jules. Je te félicite pas. Dernier match de ces quarts de finale, Angleterre-Ukraine, le 3 juillet à 21h.
C'est en fait le plus gros adversaire de l'Angleterre dans ce match-là, c'est eux-mêmes. Parce que l'Ukraine est très sympathique, etc. Mais je pense que là, le niveau va un petit peu trop s'élever pour eux. On l'a vu d'ailleurs en poule un peu contre les Pays-Bas. C'est quand même compliqué, il y a beaucoup de lacunes dans cette équipe. Voilà, donc je vais dire un bon vieux 2-0 pour l'Angleterre, mais on n'est jamais à l'abri qu'ils fassent n'importe quoi non plus. Donc on verra.
Val, tu vois l'Angleterre aussi sereine, tranquille?
Ouais, bah moi je, alors peut-être pas sereine, Jules l'a dit, parce que je pense que le principal adversaire de l'Angleterre là, ça va être eux-mêmes, mais surtout que l'Angleterre, et peut-être que Jean-Baptiste Guégan nous en reparlera samedi, il faut juste se rappeler que l'Angleterre est à un match de jouer une demi-finale à domicile à Wembley, puis ensuite une finale à domicile à Wembley, le tout contre soit l'Ukraine, enfin d'abord l'Ukraine et ensuite le Danemark ou la République tchèque. Donc c'est le tableau le plus ouvert de l'histoire. Si les Anglais ne font pas au moins finale sur cette compétition, même après avoir battu l'Allemagne pendant ce huitième, je pense que ce sera un terrible aveu d'échec pour cette équipe. Et du coup, j'ai confiance en cette équipe pour aller chercher cette victoire contre l'Ukraine.
Merci beaucoup, messieurs. Merci pour cette émission. On essaye de se remettre doucement de nos émotions. Ça va être assez compliqué, mais à tous les auditeurs, sachez qu'on traverse la même souffrance et la même peine et que c'est aussi ce qui fait la beauté de ce sport qu'on kiffe tant. On se retrouve demain pour une nouvelle émission et on embrasse évidemment Véronique Rabiot pour toutes ses déclarations et tout le plaisir qu'elle nous donne malgré cet échec cuisant. Et à très vite.